générique, c'est parti.
Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse à 28.
Une thèse sur quoi?
Sur les paysans nommés de la Côte d'Or.
Pour la de
Paladru.
Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Peter Morel, ancien invité du podcast Passion médiéviste que nous allons vous présenter aujourd'hui et actuellement membre de l'équipe de la BU Lettres et Sciences Humaines de Nancy. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Fanny Cohen-Moreau, ici présente.
Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour.
Donc, Fanny est créatrice et productrice, de plusieurs podcasts, en particulier dans le domaine de l'histoire. Et aujourd'hui, pendant à peu près 40-45 minutes, je vais interroger Fanny concernant son métier, la création du podcast, comment elle les réalise, son parcours. Et nous allons réserver un temps d'échange pour que vous puissiez également échanger avec Fanny sur tout ça. Voilà.
Et ma recette de blanquette.
Et ta recette de blanquette.
Pardon.
Bien, alors, première question. Commençons par le commencement. Parlons un peu de toi. Peux-tu me parler un peu de ton parcours jusque-là?
Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Alors, j'ai fait des études d'histoire et de journalisme, un peu en parallèle, parce que je pense qu'au début de mon parcours dans la vie, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je m'étais dit, bon, voilà, essayer de trouver un métier. Et le journalisme m'attirait parce que c'est un métier, bon, ultra précaire, mais ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on peut rebondir et faire plein de choses différentes. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait parce que, même si avec l'histoire m'intéressait beaucoup, le monde de la recherche, en fait, c'est quand même des métiers très précis, même si on peut faire déboucher sur d'autres choses. Le journalisme m'intéressait par l'aspect, vraiment, on peut faire plein de choses. Quand j'ai fait mon école de journalisme, j'étais formée autant à l'écrit, à la vidéo, à la radio, au web. Et c'est ce qui m'a plu le plus, c'était la radio, pour son aspect, voilà, le côté parler directement aux gens, vraiment avoir ce côté direct avec les auditeurs, et aussi une autre forme de liberté par le son, que ne permet pas forcément l'image. On pourra en reparler de pourquoi j'ai choisi peut-être le format podcast. J'ai commencé à travailler notamment à Europe 1 et à France Inter, où je travaille toujours de temps en temps. Et ce côté, voilà, découvrir la radio, vraiment m'a tenu à cœur, et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai rejoint mes deux passions, donc avec l'histoire et la radio.
Très bien, et bien vient la deuxième question. Tu es reconnue, je pense qu'on peut dire en France et même internationalement maintenant, ouais. Pour un de tes podcasts en particulier, Passion médiéviste, donc comment t'es venu cet intérêt pour la période médiévale?
Ça m'est venu, je pense, pendant mes études d'histoire, en Cagne. Donc vraiment, ce côté, j'avais un cours sur les paysans à l'époque médiévale. Alors déjà, voilà, bon, l'époque médiévale, ben, c'est 1000 ans, donc c'est 1000 époques dans une époque. Et voir un peu l'histoire médiévale par le petit bout de la lorgnette m'intéressait beaucoup. Et aussi, je pense qu'il y a tout mon goût aussi pour la fantasy, pour tout ce qui est Tolkien, ce genre de choses qui, en fait, s'inspire en partie de l'histoire médiévale, qui m'a donné ce goût-là. Et je pense aussi, vraiment ce côté, en fait, le Moyen-Âge est partout autour de nous. Bon, là, voilà, bah, tout à l'heure, on se baladait à Nancy, bah oui, le Moyen-Âge est très présent encore à Nancy, et en fait, partout en France, parce que... et on arrive à identifier, quand on voit un château, quand on voit une cathédrale, bon, les cathédrales, parfois, c'est un peu... il y a des petits pièges, mais en tout cas, les châteaux et beaucoup de choses, on sait reconnaître du médiéval. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais le Moyen-Âge est partout dans la culture populaire. Beaucoup de séries, je ne sais pas, une certaine série Game of Thrones, où là, le Moyen-Âge est quand même vraiment très présent et dans beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc, c'est vraiment une période historique qui est, pour moi, très importante à étudier. Et surtout qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues. Sur Moyen-Âge, vraiment, c'est à 90% des personnes qu'on leur demande, bah, c'est quoi les premières images qui viennent en lien avec le Moyen-Âge, c'est une époque sombre, obscure, on est dans la boue, bref. Les clichés qui, malheureusement, à partir de la Renaissance, ont commencé à bien polluer toute la vision de cette époque-là. Alors que, bah non, c'est une période beaucoup plus riche. Et c'est pour ça que je me dis, là, il y a un enjeu aussi à s'intéresser au Moyen-Âge, parce que pour le grand public, il y a des choses à faire.
Lorsqu'on préparait cet entretien, tu m'as également prédit que tu avais un master 1 d'histoire médiévale. Tu as fait de la recherche. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et nous dire comment cette expérience de recherche aussi, tu réussis à la restituer dans ta production de podcast?
Alors oui, j'ai fait un M1 et pas un M2 parce qu'en fait, j'ai trouvé du travail. Et mon professeur Laurent Feller à Paris 1 m'a dit « Mais allez-y, je préfère des étudiants qui travaillent que ceux qui meurent de faim. » Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Et ta question, c'est comment ça influe, c'est ça? Et en fait aussi, alors pourquoi j'ai fait un master, c'est qu'en sortant d'école de journalisme, je savais très bien que je n'avais pas trouvé de travail tout de suite. Et comme je n'aime pas m'ennuyer, je me suis dit, je vais quand même aller m'inscrire à ma fac, dans une fac au cas où, pour ne pas m'ennuyer, et commencer ce master. Et en fait, c'est aussi en faisant ce master que j'ai dit du podcast, parce que je me disais, surtout le côté master est très peu valorisé dans la société en général. Le fait d'avoir fait un master, ça ne compte pas pour grand-chose. Déjà, malheureusement, la thèse, dans mon générique ou quoi, les gens qui sont en thèse, on les regarde, surtout en histoire, parce qu'on dit, ça sert à quoi et tout ça. Donc les gens en thèse, on ne les considère pas très bien. Alors les gens en master, il y a aussi toute une question de visibilité. En fait, quand on fait un mémoire, quand on fait un master, c'est parfois... Bon, maintenant, il y a plein de choses, des sites où on peut mettre en ligne les mémoires et tout ça. Donc là, ça commence à changer un petit peu. Mais ce n'est pas du tout valorisé. Donc, je me disais aussi, ces gens qui font Bac+5, qui sortent de Bac+5 et qui se redisent, qu'est-ce que je fais dans la vie?
Pour de la littérature grise.
Ça reste un petit peu dans... En fait, il faut connaître, alors que c'est des recherches. Et vraiment, c'est ce que je voulais faire aussi avec le podcast, c'est valoriser toutes ces personnes que je vois autour de moi, qui faisaient du travail de recherche intéressant, appuyé, sourcé, et il y avait quelque chose à faire avec ça.
Et donc, tu as eu l'idée de créer un podcast dédié à l'histoire médiévale, qui s'appelle donc Passion médiéviste. Comment t'es venue l'idée, comment a germé l'idée de créer justement un podcast spécifiquement dédié à cette période historique?
Alors déjà, il y a quelque chose à dire. Est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est un podcast? Il n'y a pas de honte à avoir du tout. Pour les personnes qui auraient des doutes, on ne sait jamais. En fait, les podcasts, c'est comme une émission de radio, mais disponible directement sur Internet, donc il n'est pas passé directement par les ondes et qu'on peut écouter directement sur Internet. Et ça existe depuis plus de 20 ans en France. C'est quelque chose, vraiment, c'est... Là, depuis quelques années, on entend plus parler, parce qu'il y a notamment tout ce qui est monétisation, les médias de presse qui ont commencé à en faire aussi, donc on entend un peu plus parler. Mais c'est un média, finalement, un peu ancien, par rapport à Internet, et qui a une grande liberté. Et donc, pourquoi un podcast? En fait, alors déjà, l'idée du podcast, je me rappellerai très très bien où j'étais. Alors, j'étais en stage au Figaro, personne n'est parfait. Et c'était vraiment, en février 2017. Et quelqu'un sur Twitter, parce que Twitter est très bien, c'est trop dur d'être un médiéviste, donc de faire quelqu'un qui fait des études d'histoire médiévale. Il faudrait faire une émission « Vie ma vie de médiéviste ». Et vraiment, j'ai eu un « ping ». Mais oui,
l'ampoule.
C'est ça que je vais faire. Je vais faire une émission où j'interviewe des personnes qui font des recherches d'histoire médiévale. Alors, en termes de sujet niche, je pense qu'on ne peut pas faire plus niche que ça. À part le podcast sur les chiens, ça c'est encore autre chose. Mais j'ai vraiment l'idée de faire ça. Et pourquoi aussi en podcast? Alors déjà, donc, comme je l'ai dit, le média audio, c'était ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Parce qu'il y a ce côté jouer avec la voix. Et aussi parce que quand on interviewe des personnes avec juste la voix, ça part directement au cœur. Et je me disais pas de vidéo parce que quoi aurait servi la vidéo à part à juste devoir combler l'image, à devoir faire des recherches iconographiques pour occuper l'image, parce que filmer quelqu'un pendant au début 15 minutes et maintenant quasiment une heure, ça n'a pas grand intérêt. Et comme le son, j'étais plus à l'aise. Et pas en faire de l'écrit, parce que moi ce qui m'intéressait, c'était au-delà de vulgariser le Moyen-Âge, c'était l'humain qui m'intéressait. Et à l'écrit, on le sent un petit peu moins. Et aussi, par rapport aussi par côté humain, c'est que l'audio, les gens sont plus à l'aise par rapport à une caméra. Et vraiment, Surtout, il y en a que je reçois, c'est un peu des... C'est... Alors, ce qui est drôle, c'est que mes invités ont toujours le même âge parce qu'ils sortent de M2 ou ils sont en début de thèse et moi, je vis de plus en plus. Donc, ils sont... Parce que là, maintenant, ça fait 5 ans que je fais le podcast. Donc, mine de rien, au début, j'avais le même âge que mes invités, maintenant, de moins en moins. Mais ce sont des personnes quand même qui n'ont pas l'habitude de parler, qui sont parfois impressionnées, n'est-ce pas, Peter? Quand tu es venu, on a dû limite faire la sophrologie pour te calmer.
Je n'ai pas de quoi tu veux parler.
Mais donc, c'est pour moi un vrai travail de mettre à l'aise les gens. Donc, si en plus, il y avait la caméra... Et un rapport à l'image, parce que aussi, il y a plein de personnes qui ne veulent pas être filmées, parce que bah, quand on va dans la société aujourd'hui, une image, parce que par exemple, moi je prends en photo mes invités, je les mets sur le site, mais j'ai une invitée il n'y a pas longtemps qui m'a demandé est-ce que tu peux enlever la photo, parce que mes élèves de collège ont détourné la photo. Donc bien sûr, je l'ai enlevée, mais donc ce rapport à l'image, surtout bah, actuellement, peut gêner. Alors qu'avec l'audio, déjà, il y a plus de liberté. On est moins en train de juger. Donc c'est pour ça que vraiment, et aussi parce que j'aime bien ouais, jouer avec la voix, j'aime bien faire du montage audio. Donc le podcast, pour moi, s'est imposé comme format, comme son.
J'en profite, je rebondis sur tout ce que tu viens de nous dire pour te poser une question un peu directe.
Voilà.
Selon toi, qu'est-ce qu'un podcast en réalité, en particulier dans la discipline historique? Comment tu le conçois comme support de diffusion de la voix? Tu viens de nous l'expliquer. Mais également, pour toi, est-ce un bon moyen de vulgariser les connaissances historiques et de les rendre plus accessibles?
Oui et non. Alors, je m'entends, c'est que oui, parce que justement, il y a ce côté, on parle directement aux gens. Donc ça peut permettre de faciliter, c'est aussi, ça se démocratise en partie l'écoute du podcast. Donc les gens, en fait, ils vont écouter ça, ils vont apprendre des choses. Mais ça peut être aussi un peu compliqué. Les limites de la chose, c'est que notamment, on apprend aussi beaucoup avec l'image. Donc, c'est pour ça que moi, quand on m'envoie des sujets, parfois, je n'accepte pas tout, parce qu'il y a des sujets qui, sans image, ne passeraient pas. En fait, où là, je me dis, mais non, en fait, je sais que par exemple, alors j'ai quand même fait des épisodes sur l'histoire de l'art et tout ça, mais c'est vrai que parfois, sans image, ça devient un peu compliqué. Ou alors, les épisodes où on parle beaucoup de contexte de guerre, de géographie, où là, des cartes sont nécessaires pour pouvoir suivre. Parce qu'en fait, si quelqu'un ne connaît pas la géographie du lieu, ben, c'est très excluant. Donc moi, je n'ai pas envie que quelqu'un écoute le podcast et se dise « Ah, ben, je n'ai pas les codes, je n'ai pas les références, je ne peux pas faire ça. » Donc là, moi je fais vraiment un choix. Et par exemple, donc, hier soir, on a enregistré une émission à la bibliothèque Stanislas. Et ben, je me suis rendu compte, après l'enregistrement, qu'il y a certaines choses que j'aurais dû clarifier. Par exemple, on a invité à parler des bastions, qui sont partout sous Nancy. Et en fait, c'est vrai que à la fin de l'enregistrement, quelqu'un dans la salle a demandé « Mais c'est quoi un bastion ?» Et là, j'ai fait « Eh ben, j'aurais dû demander ça. » Parce que c'est vrai que... Alors même moi, en fait, je me suis rendu compte que je sais pas... Je croyais savoir ce que c'était un bastion, mais en fait, j'étais pas totalement sûre. Et ben, il y a cette attention que j'aurais dû porter à définir ce qu'est un bastion. Donc là, je pense que c'est le côté live et le côté... commenter un peu dans les conditions du direct, j'ai pas osé. Alors, j'étais dans le fil du truc, mais c'est vraiment une attention que je porte quand un invité me dit le haut ou le bas Moyen-Âge. Alors, on redit bien, le haut Moyen-Âge, c'est le début, le bas Moyen-Âge, c'est la fin. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses évidentes. C'est aussi en audio, on peut aussi se permettre de répéter les choses pour que les gens le comprennent. Mais de toute façon, quand on écoute une émission de radio, on ne retient pas tout. Donc, c'est pas grave. Mais, et je m'amuse aussi en audio dans différents formats, on peut se permettre... Parce que c'est pas des conférences, mes podcasts. C'est pas c'est des interviews, mais... par exemple, quand... Je sais pas, on a fait un épisode sur Jacques II de Bourbon, qui, en fait, est un gros loser. Vraiment, qui a tout foiré dans sa vie. Eh bien, on peut le dire comme ça, aussi. C'est pas... En fait, je pars du principe que, comme le fond de l'émission est béton, scientifiquement, mes invités, ils ont bossé, on peut se permettre quelques libertés sur la forme... sans être vulgaire, mais en disant en fait oui, il a tout foiré. Voilà, on peut dire le mot foiré et ça passe. Donc là, il y a aussi cette liberté du son qui se dit on peut se permettre de parler un petit peu comme ça. Mais pour le format podcast, ce qui est bien, c'est aussi qu'il y a plein de formes différentes. Donc là, moi j'ai parlé jusqu'à présent de mon format de base où j'interviewe des gens, mais je fais aussi des formats de reportage, je fais des formats de chronique, je fais des formats un peu débat avec les super jeux de Royal, on en parlera peut-être. Oui. Et là, c'est ça aussi qui est chouette avec le son. On peut jouer en faisant plein de choses. J'ai fait de l'ASMR parchemin dans un épisode où vraiment, on entend des pages tourner d'un manuscrit du XIIIe siècle. Et là, vraiment, on se fait plaisir avec ça.
Tiens, justement, profitons-en. Peux-tu nous parler des différents formats que tu as créés au sein de Passion Médiéviste?
Donc, comme j'ai le format de base, ce que j'appelle le format classique, où donc, j'interview des personnes qui font des masters ou des études médiévales, qui me parlent de leur sujet. Là, on est vraiment un sujet en général. Ensuite, j'ai fait des hors-séries. Donc là, bah, tout est dans le titre. C'est clairement quand j'ai quelque chose qui ne va pas là-dedans, hop, je suis hors-série. Là, par exemple, j'ai sorti un hors-série avec ma première invitée 5 ans plus tard, où là, c'était vraiment ma première invitée au bout de 5 ans. Bah, elle a fait une thèse, elle a soutenu sa thèse, donc là, j'ai mis un hors-série. Je fais donc aussi des formats rencontres où là, j'interviewe, alors je suis très forte en titre, hein. Mais j'interviewe des gens qui, par leur métier, propagent le goût pour le Moyen-Âge. Donc, j'ai eu un maître verrier, j'ai eu un forgeur d'épée, j'ai eu pas mal de... Voilà, des gens comme ça qui, avec leur métier, en fait, propagent le goût pour le Moyen-Âge, une guide et tout ça. Donc, j'ai ce que je parlais de ce format un peu reportage hors les murs, où là, bah, je m'amuse à aller enregistrer in situ dans un lieu où l'histoire médiévale est présente. Donc, par exemple, pas loin d'ici, j'ai fait il y a un épisode sur une visite du Dijon médiéval. Où là, j'avais trouvé un guide super sympa. Où en fait, bon, lui, c'est un guide qui fait une visite de la ville en général. Mais je lui dis, bah, montre-moi quelques endroits où on voit encore l'histoire médiévale à Dijon. Bon, ça, vous dire encore, c'est classique. Mais j'ai fait un épisode sur le lac de Paladru, dont on entend parler dans l'épisode. Donc, lac de Paladru, les moins de 25 ans, peut-être, ne connaissent pas. Mais donc, c'est dans un film, on en parlait. Et en fait, c'est pas juste un film, c'est une vraie thèse, c'est des vraies recherches, c'est une aventure archéologique de 30 ans, le lac de Paladru. Donc, j'étais très contente d'avoir quelqu'un, en fait, je suis allée au lac, donc on entend plein
que
de
bruit. Tu l'as mis dans le générique.
On entend, mais j'ai interviewé quelqu'un qui, en fait, travaille au musée, là, qui est en train d'ouvrir le musée du lac de Paladru, mais qui avait travaillé sur la fin des fouilles archéologiques. Mmh. Et donc là, qui m'a raconté cette histoire-là, et je fais aussi un épisode sur les marais salants de Guérande, parce que c'est médiéval, les marais salants. Et demain, j'enregistre un épisode à la cathédrale de Strasbourg. Normalement, je vais rentrer dedans et même en haut et tout ça. Donc là, j'ai hâte. Mais donc là, c'est ce format-là où vraiment on peut s'amuser. Et c'est je joue sur l'immersion sonore en faisant plein de sons. Puis moi, j'ai pas une formation de son particulière. Enfin, j'ai fait l'école de journalisme, ok. Mm-hmm. Mais en soi, j'ai pas fait de technicien son ni rien. Donc là, c'est aussi beaucoup à l'oreille. Et tout ça. Et donc, bon, j'ai d'autres formats, mais...
Le plus libre.
Ouais, le plus libre que j'ai qui, en fait, clive beaucoup. Vraiment, soit les gens aiment, soit ils n'aiment pas. C'est un format qu'on a appelé Super Joute Royale. Donc, Super Joute Royale, c'est un peu une idée autour d'un verre dans un bar tard le soir, où, avec des amis que j'ai dans le podcast, on aime bien dire du mal des rois de France. Parce que, pourquoi pas. Et on s'est dit, mais si on faisait un podcast là-dessus. Je m'explique. On fait donc un format où on classe les rois de France siècle par siècle. Donc vraiment, on a commencé avec Clovis et là, on va faire la deuxième partie du
14e siècle.
Et vraiment, on leur donne des points, un peu à la Harry Potter ou à la The Good Place pour ceux qui connaissent la série. Et le but, c'est de les classer du plus utile au plus boulé d'entre eux. Et là, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté forme libre. Et alors là, on se lâche totalement. Mais même, c'est quasiment les seuls retours négatifs que j'ai eu au début du podcast sur ce format-là, parce qu'on est très iconoclaste. On peut être très méchant. En fait, on a de mauvaise foi, mais totalement assumé. On dit dès le début, voilà, on est de mauvaise foi. Si vous n'êtes pas d'accord, envoyez un mail, mais on s'en fiche. C'est un point de vue et on assume le point de vue, mais attention, toujours avec le côté vraiment scientifique. On s'amuse aussi à déconstruire l'historiographie autour de certains rois. Par exemple, Saint-Louis, en fait, c'est un tocard, pardon. Hein. Mais en vrai, il a foiré tellement de choses. Qu'est-ce qu'il t'a fait en Tunisie? Enfin bref, et aussi même mes invités, donc c'est trois de mes anciens invités, il y a vraiment ce côté débat, il y en a quelques-uns qui sont très haut Moyen-Âge, vous avez retenu le début du Moyen-Âge, bas Moyen-Âge, la fin, donc il y a ce côté un peu guerre de chapelle, il y en a une qui est spécialisée histoire du genre, donc là c'est vraiment en discussion, j'essaie de les tenir, d'attribuer les points, et on se marre beaucoup, vraiment, parce qu'on parle de Jean Ier le posthume, qui a régné une journée, il est né, il est mort, il a régné une journée, mais il compte dans les rois de France. Il y a eu un Jean II après, mais celui-là, c'est Jean Ier le posthume. Donc c'est ça, et surtout, en fait, on s'est pas mal amusé avec les rois mérovingiens, dont là, on n'a jamais entendu parler, les Clodomir et compagnie, là. Et ben, voilà, je reçois quasiment un message par semaine de personnes qui me demandent, c'est quand la suite ? Parce que voilà, on fait vraiment ce côté suite et là, même les gens l'utilisent pour réviser. Donc voilà, on s'amuse bien et encore, j'ai plein d'autres idées en lien à faire des podcasts.
Et c'est un moyen pour toi également de transmettre l'historiographie d'une manière un peu plus décalée, amusante, puisque finalement, toutes les critiques, même expliquées de manière amusante sur ces rois, sont étayées scientifiquement par tes invités.
Oui, voilà, on explique par exemple Saint-Louis qu'effectivement, il y a des personnes qui ont très bien raconté sa vie derrière, qui sont très bien dit, bon, allez, on va essayer de le... la géographie pour le faire sanctifier après, non, sanctifier, bref, le rendre saint. Donc ça, c'est, voilà, on essaie de déconstruire ça aussi, parce que quand on apprend l'histoire à l'école, on n'a pas trop le temps de parler d'historiographie, de dire, bah, pourquoi on a telle image, pourquoi, en fait, on sait ça sur telle personne. Donc... c'est important, là, dans le podcast, on en profite pour parler des chroniqueurs de l'époque, pour parler de certaines choses. Et aussi, voilà, par exemple, enfin, là, on va pas mal en parler, je pense, avec la guerre de 100 ans, bientôt dans des épisodes. Ben, comment, enfin, aussi, au XVIe siècle, au XIXe siècle, comment, par exemple, avec Jeanne d'Arc, comment, en fait, son image de Jeanne d'Arc a évolué. Donc, il y a beaucoup de choses à dire comme ça. Et je pense que ce qui plaît aussi aux auditeurs, c'est qu'on les prend pas pour des débiles. Moi, c'est très important dans le podcast, c'est que je ne nivelle pas par le bas. Non, je me mets au niveau de tout le monde. Et ça, c'est vraiment important. C'est qu'on se dit, on parle à tout le monde. Je ne parle pas que aux fans d'histoire. Je ne parle pas que... Alors, je sais que parfois, justement, voilà, avec l'histoire des bastions, je ne fais peut-être pas assez attention. Mais c'est vraiment pour... Moi, mon but, c'est que ma grand-mère de 86 ans, qui n'a même pas le BEPC, puisse écouter. Donc, parfois, elle me dit, tu parles un peu vite, ma petite. Mais j'essaie de penser à elle en me disant, OK, il faut que Mimi puisse comprendre. C'est important pour moi.
Merci beaucoup Fanny. Mmh. Passons un peu à la deuxième partie de cet entretien. Rentrons dans le vif du sujet.
Okay.
Passion médiéviste derrière un épisode. Ma première question, c'est pourquoi as-tu choisi spécifiquement d'interroger des masterants, des doctorants ou de jeunes docteurs pour intervenir dans ton podcast ?
Bah, le côté jeune chercheur, j'en ai parlé un petit peu à l'heure effectivement de ça, mais aussi parce que, bah, alors, par exemple, la France Inter... il y a des émissions de radio où sont reçus des historiens, des historiennes qui viennent présenter souvent un bouquin. C'est vraiment 90% des émissions d'histoire en radio ou en télé, c'est quand même où il y a un bouquin, où il y a une actualité, tout ça. Moi, ça m'intéressait du coup de prendre, parce que en vrai, quand je dis du podcast, d'abord j'ai regardé ce qui existait. Je ne vais pas faire quelque chose qui existe déjà, ce que les gens devraient faire plus souvent. Mais j'ai regardé ça, j'ai dit « Ok, en fait, le côté jeune chercheur, ça n'existe pas encore totalement. » Maintenant, il y a beaucoup plus de choses, que ce soit ma thèse en 50-20 secondes ou pas mal de choses comme ça. Mais ce côté vraiment, les jeunes chercheurs qui sont en master, qui sont en thèse, bah, ça n'existe pas vraiment. Donc, je me suis dit « Ok, on va faire ça comme ça. » Et aussi, je suis très forte pour m'obsédé des règles toute seule. Mais donc, le côté des gens qui sont en M2, alors, c'est important pour le coup, je ne prends pas des gens qui sont en cours de M1. Pourquoi ? Parce que je préfère attendre que le master de l'EM1 soit validé pour que le professeur ait validé les recherches. Parce que quand quelqu'un est en cours de M1, comment je sais si ses recherches sont bien ?
C'est un procédé en construction.
Voilà, c'est en cours de construction. Et je ne peux pas vérifier tout, en fait, derrière. Donc moi, mine de rien, d'avoir cette validation scientifique de « Ok, je peux faire confiance, ça a été validé derrière », moi, c'est clairement... C'est vrai que maintenant, je prends plus en plus des gens, au moins qui ont fait le M2, parce que mine de rien, en termes de réflexion, en termes de recherche, ils sont allés un petit peu plus loin. Mais des gens qui font des M1 brillants, j'en ai reçu vraiment parfois qui sont encore mieux que des M2, donc c'est intéressant. Mais pareil pour les thèses, les gens qui ont de thèses ou qui ont soutenu à moins d'un an. Et j'ai cette règle-là qui fait que parfois, je sais que je vexe un peu des gens qui m'envoient leur sujet, « Oui, vous avez soutenu à 5 ans ». C'est ma petite règle, mais parce que si je commence à recevoir les gens qui ont soutenu des thèses, je vais jamais m'en sortir. J'ai le monde entier qui... Enfin, le monde entier. Okay. Mais c'est... Voilà, et il y a plein d'autres podcasts maintenant qui existent. Donc, moi, c'est mon angle que j'ai choisi, mais voilà, pour essayer de rester un peu original.
Et en dehors de ça, comment sélectionnes-tu le sujet d'un épisode et par extension du sujet, les invités ?
Alors, il faut savoir que je reçois en moyenne une proposition de sujet par semaine, sachant que je sors un épisode par mois. Là, pour vous dire, j'ai déjà dans mon programme de sortie l'épisode de décembre. Donc, j'ai beaucoup d'avance en général. Mais quand on m'envoie un sujet, il y a plusieurs critères. Alors déjà, il faut que ce soit un sujet que je n'ai pas déjà traité. Par exemple, j'ai sorti un épisode sur Jeanne de Castille, donc une reine de la fin du Moyen-Âge, une infante d'Espagne. Bah, si quelqu'un me propose un sujet sur une autre d'enfant d'Espagne à la fin du Moyen-Âge, je veux dire, ça ressemble un peu à déjà ce que j'ai fait. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un profil très différent, mais si, pardon, si c'est, par exemple, une sœur de Jeanne de Castille, pardon, bah là, je ne peux pas dire oui. Donc voilà, il faut essayer d'avoir quelque chose, parce que le Moyen-Âge est tellement riche, il y a tellement, enfin, déjà en termes de période, et en termes de, voilà, d'histoire du genre, du social, culturel, politique, religieuse, il y a tellement de degrés différents que normalement, je pourrais avoir des sujets très différents tout le temps. Donc je fais attention à ça, à essayer de trouver des choses que je n'ai pas encore traitées. Aussi, un critère qui, mine de rien, est important, c'est un sujet résumable en une phrase. Parce que il y a des sujets qui peuvent être très intéressants, mais alors où il faut expliquer, ouais, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que c'est pas adapté à mon format. Alors c'est un crève-cœur à chaque fois que je me dis, il faut que je dise non à cette personne. Alors parfois, juste, je réponds pas. C'est pas très sympa, je sais, mais j'ose pas dire non, donc juste parfois, je laisse un peu traîner, mais quand j'ai des doutes. Mais quand je sais que là, clairement, non, c'est pas possible, et c'est à chaque fois... Maintenant, je crois que je fais un peu mieux, parce que je crois qu'au début, j'étais un peu trop directe. Et bon, voilà, vraiment, je suis désolée, c'est pas que votre sujet est pas bien, mais c'est pas adapté au format. Donc ça, c'est important, et j'ai déjà vexé très fort quelqu'un, donc maintenant, sans le faire exprès, mais maintenant, je fais attention par rapport à ça. Et mine de rien, il faut aussi que la personne ait envie et soit un minimum à l'aise. Alors, je teste pas tout le monde par téléphone. En vrai, souvent, c'est des échanges de mails, et hop, quand j'arrive chez moi, je découvre la personne qui arrive chez moi. Ah, je pensais pas qu'elle avait cette tête, tu vois. Et donc, je devrais peut-être parfois les tester un peu plus, parce que j'ai eu quelques surprises, pas mauvaises surprises. Il y a une fois un épisode que j'ai pas sorti, parce que vraiment, la personne en face, était pas bon. Vraiment, au bout de 20 minutes, la personne n'avait plus rien à me dire. Sachant que les épisodes durent 40 minutes, c'est un peu problématique. Mais voilà, c'est tous ces critères-là. Parfois, je contacte moi des gens. Par exemple, début d'année dernière, je me suis dit, je veux faire un épisode sur l'agriculture médiévale. Parce que, en fait, comme c'est un sujet qui a déjà été très traité dans l'historiographie il y a 10-15 ans, maintenant, c'est plus trop étudié. Parce que, il y aura peut-être un renouveau. Mais comme c'est un sujet qui est beaucoup au programme en 5e, l'agriculture Moyen-Âge, j'ai beaucoup de profs qui me disent on aimerait bien un sujet pour pouvoir en parler, donc trop bien. Donc j'ai cherché sur mon site préféré, aliasthèse.fr, c'est ma mine d'or pour moi. Donc j'ai cherché agriculture Moyen-Âge et j'ai trouvé comme ça quelqu'un qui a fait sa thèse sur les moulins à Paris au Moyen-Âge. Et je contacte la personne, on trouve son mail, parce que souvent, comme ils sont doctorants, on trouve les mails en ligne, tout ça c'est pratique. Mais il y a là un enjeu de convaincre la personne. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, de plus en plus de gens qui sont doctorants ont entendu parler du podcast, ce qui est plutôt bon signe. Mais là, effectivement, la personne aurait pu être pas à l'aise ou quoi, et moi, je pense que c'est un de mes épisodes préférés, j'ai adoré faire cet épisode. Donc, voilà, il y a plusieurs critères. Ou parfois, en fait, quand quelqu'un m'envoie un sujet qui peut être un peu large, on peut le redéfinir. Par exemple, là, j'ai une personne qui m'a envoyé, elle travaille sur une étude de cas un peu générale dans une église, mais en fait, dans son sujet, elle a toute une partie sur les carreaux de pavement. Donc, qui est un élément d'architecture intérieure médiévale. Et j'avais fait un épisode en partenariat avec le musée Cluny à Paris, où j'en avais parlé. Je me suis dit, mais c'est super intéressant, les carreaux de pavement. Là, c'est vraiment un micro-sujet. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce qu'en fait, on a tous parfois des carreaux chez nous. Et en fait, comment c'était au Moyen-Âge? Donc là, il y a aussi parfois, moi, un vrai travail de journaliste là-dessus, de comment dire, OK, en fait, là, on me prend dans un sujet comme ça, je vais juste peut-être le réduire un petit peu ou le redéfinir. Donc là, il y a vraiment un travail de ma part, pour le coup.
Traites-tu exclusivement de sujets français, qui se déroulent dans l'espace médiéval français, ou est-ce que tu essaies d'élargir à l'échelle européenne, voire extra-européenne?
Alors, j'ai beaucoup de français parce que forcément, les gens en France étudient quand même plutôt l'espace français qui, quand même, en termes de sources médiévales, on est plutôt garni. Mais là, par exemple, le hasard a fait que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup d'épisodes sur l'Espagne. J'avais fait des épisodes sur l'Italie. Clairement, je manque d'épisodes sur le Saint-Empire romain germanique où là, en fait, j'ai quasiment rien fait là-dessus. Je me rends compte, c'est un gros trou et il faudrait vraiment que je ne fasse plus.
C'est un appel.
Oui, c'est un appel, mais sur l'Angleterre, j'aimerais bien faire beaucoup sur l'Angleterre aussi. Et là, je suis très contente parce que dans les prochains mois, j'ai deux épisodes qui vont être hors Europe, que normalement, je vais enregistrer. Un sur les Mayas, parce que les Mayas, techniquement, c'est le Moyen-Âge, en termes de temporalité, voilà. Donc là, Je sais peut-être que ça va un peu désarçonner les personnes, mais en fait, bah, oui, techniquement, en termes de vraiment de chronologie, c'est l'époque médiévale, donc je suis très contente de faire ça. Et un épisode sur le Japon médiéval, avec qui, en fait, une invitée m'en avait parlé, comme quoi elle allait faire une thèse là-dessus. En fait, elle a fait un mémoire, et du coup, là, elle m'a dit, c'est bon, j'ai fait mon mémoire, est-ce qu'on en parle ? Carrément. Donc moi, j'aimerais beaucoup sortir de l'Europe, mais après, il y a toujours la question des sources. La question aussi que... Bah, j'avais quand même fait un épisode sur... l'islam médiéval, avec un invité qui était en co-direction avec le Koweït. Donc là, vous avez été toute une aventure pour essayer de le choper, parce que bah, entre le Koweït et Paris. Mais là, c'est vraiment aussi intéressant. J'ai fait un super hors-série sur le Maroc au Moyen-Âge, qui est très, très, très dense. Mais c'est aussi ça, en fait, mais mine de rien, de montrer effectivement qu'il n'y a pas que la France, il y a tout l'espace géographique qui m'intéresse. Bah, j'ai fait un épisode sur le... la mer à l'est de l'Italie, l'Adriatique. J'ai fait un épisode sur l'Adriatique aussi. Donc là, pour le coup, moi, plus on me propose des choses exotiques, plus ça m'intéresse, je pense.
Et dans le même temps, tu essayes de traiter l'ensemble des thématiques qui sont abordées par l'histoire médiévale. Donc ça va de l'histoire militaire, politique, culturelle, sociale, du genre, etc., etc.
Oui, même si je pense que je suis clairement, et là, je pense que c'est vraiment goût personnel, pas trop intéressée par tout ce qui est histoire politique, militaire, oui. Parce qu'en fait, ça a déjà été beaucoup traité. C'est très présent. Enfin, si on regarde les grandes dates, si on regarde les grands événements, si on regarde les manuels, ben, c'est rempli d'histoire politique, d'histoire militaire, de grandes batailles, de sièges et compagnie. Donc en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça, parce que ça a déjà été traité.
Mais tu cherches des figures ou des sujets un peu
Tu cherches des sujets, des figures qui sont un peu plus méconnues que la grande histoire qu'on retrouve dans les manuels.
Et même aussi des sujets qui peuvent être connus, mais voilà, là par exemple, l'épisode sur Jeanne de Castille. En fait, Jeanne de Castille, donc la mère de Charles Quint, et voilà, donc princesse et puis reine de la fin du Moyen-Âge. Quand on regarde dans l'historiographie, en fait, elle est connue sous le nom de Jeanne la Folle. C'est vraiment à l'université, partout, étudiée comme ça. Mais en fait, Jeanne la Folle, c'est un surnom qui a été donné après, par les historiens. Donc moi, dans l'épisode, je me suis concentrée, et c'est un biais, et bah, c'est assumé, hein, à raconter toute sa vie dans l'épisode, et c'est vraiment à la fin que je dis, ben voilà, en fait, on l'appelle Jeanne la Folle. Mais j'ai préféré le dire à la fin, comme ça, ben, l'auteur qui ne connaît pas ne va pas être influencé par cette vision-là. Donc il y a aussi, en fait, ça de réétudier. Mais clairement, aussi, on me dit, pourquoi pas un épisode, par exemple, sur Aliénor d'Aquitaine, donc des personnes très connues comme ça. Alors déjà, parce qu'en fait, elles ont déjà été beaucoup étudiées, donc il n'y a pas de gens qui font des masters ou des thèses là-dessus. Donc... j'essaie de me dire, bah justement, essayer de sortir un petit peu des sujets très connus, qui sont déjà traités par beaucoup de gens, de faire découvrir des choses aux personnes en disant, bah tiens, alors un des meilleurs messages que j'ai reçus sur le podcast par une autrice, c'est qu'elle me dit, en fait, votre podcast me fait intéresser à des choses que je ne pensais pas, enfin, ok, ma phrase n'est pas très française, mais vous avez compris, que je ne pensais pas que je pourrais m'intéresser à ces choses-là. Et pour moi, c'est le meilleur des compliments, je dis, ok, c'est réussi. Parce qu'effectivement, je sais pas, les chiens de chasse, l'assemblée de Vincennes de 1329, tout le monde s'en fout. Enfin, non, quand même pas. Mais je me dis, voilà, là, il y a vraiment un enjeu à se faire intéresser à des gens peut-être qui n'avaient perdu le goût de l'histoire ou tout ça. Désolée pour les manques de français, j'ai un peu mal à la gorge, désolée.
Comment se déroule un enregistrement, en particulier pour les personnes qui n'ont pas pu venir à la bibliothèque Stanislas hier soir? Et par extension, comment prépares-tu les différentes questions que tu vas poser à tes invités?
Ça se déroule très mal, je suis très 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 méchante. Bah, les questions, c'est je les fais en amont avec l'invité qui m'envoie un petit résumé de son mémoire ou de sa thèse, parce que clairement, j'ai pas le temps de lire la thèse. En vrai, ça me prend pas beaucoup de temps sur les questions. Peut-être que j'aurais passé plus de temps, mais parce que j'ai un peu mon canevas. Je sais que voilà, on va commencer par les questions d'introduction, de pourquoi ce sujet, définir l'espace géographique, définir un peu le contexte historique. Après, on rentre dans le sujet, on détaille un peu le sujet. Ensuite, bah, ça va être des questions de méthode, parce que là, je trouve que c'est toujours hyper intéressant en fait, d'expliquer bah, comment un médiéviste sait ça, à partir de quelles sources. J'envoie les questions en amont à l'invité, pour qu'il puisse, pas me les valider, mais juste aussi réfléchir, parce que parfois, c'est aussi... Je sais que j'ai un invité qui m'a déjà dit, bah, en fait, tes questions m'ont fait un peu reconsidérer mon sujet sous un autre angle, pas entièrement non plus, mais en fait, parfois... Ben justement, je vais un peu tourner les choses différemment et aussi ben, pour qu'ils préparent certains éléments pratiques. Et aussi, parce que pour être sûr que je ne me trompe pas. Par exemple, j'ai eu une invitée, alors c'était pour Passion Antiquité, un de mes podcasts, où j'avais parlé du mot ville, les villes africaines en antiquité. Et en fait, elle me disait, au Moyen-Âge, on dit cité, on ne dit pas ville. Donc, c'est pas grave en soi, mais c'est quand même intéressant, et c'est là que mes invités, en fait, le retour est important. Pour moi, les interviews, on les fait vraiment à deux. Enfin, par définition, oui, on est deux, mais c'est vraiment une co-construction. C'est pas juste moi qui décide tout, mais on fait ça vraiment ensemble. Donc là, alors, pour certaines personnes, quand c'est des doctorants qui sont plutôt en confiance et tout, j'ai pas grand-chose à faire, ils déroulent et tout, mais il y a aussi parfois un vrai travail de maïeutique à faire. Quand c'est des masterants, quand c'est des gens qui sont peut-être encore au début de leur recherche, de les aider à mettre en forme.
Tu les accompagnes.
Je les accompagne, je les mets à l'aise. Là, il y a vraiment un gros boulot à faire là-dessus. Et c'est pour ça que toutes mes interviews, je crois que quasiment oui, vraiment peut-être une ou deux, j'ai tout fait en face-à-face. J'ai fait aucune interview à distance, même pendant le Covid et compagnie, parce qu'en fait, j'avais des épisodes d'avance. Donc c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup d'avance et j'ai bien fait. Mais pour moi, vraiment, il y a plein de choses qui passent vraiment par en étant face à la personne qui ne seront pas du tout la même chose, en fait, à distance, et aussi pour une question de qualité sonore. Clairement, je préfère être en face.
Tu nous disais tout à l'heure que le podcast était enregistré chez toi.
Ouais.
Donc, tu accueilles l'ensemble de tes invités et tu as tout le matériel à disposition chez toi ?
Et là, je ne l'ai pas pris parce que c'était lourd. Mais j'ai tout, en fait, chez moi. J'ai un studio mobile pour quasiment 4 personnes maintenant. Mm-hmm. Après, là, au bout de 5 ans, j'ai investi dans plein de choses. Mais ce n'est pas forcément hyper onéreux non plus. Mais c'est important pour moi. Je pense que là, c'est vraiment le côté, vu comme je travaille encore à France Inter, ce côté exigence sonore est vraiment très important. Mes invités, parfois, vont faire un petit peu comme ça. Je dis, est-ce que tu peux refaire ta phrase ? Je fais vraiment hyper attention là-dessus. Et après, au montage, hop, je nettoie tout. Mais c'est vraiment important.
C'est l'avantage du podcast de pouvoir retravailler la piste audio après, que ce n'est pas quelque chose d'enregistré en direct, de figer définitivement, que tu peux vraiment moduler, retravailler.
Oui, et le montage me permet vraiment de sublimer les invités, qu'ils se sentent à l'aise de bégayer, enfin, pas bégayer, mais de se sentir à l'aise de pouvoir refaire leur phrase. Mm-hmm. Et pas qu'ils le regrettent. Moi, surtout, je veux pas que quelqu'un soit après, genre, oh, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Non, on prend notre temps et tout ça, et que ça soit aussi agréable à écouter. Parce que, bon, quand on écoute la radio, surtout dans les matinales et compagnie, on est habitué à entendre les gens dire des et tout ça. Mais c'est quand même plus propre si on les enlève. Donc, je préfère quand même.
Donc, nous ne l'avons pas évoqué tout à l'heure, mais Passion médiéviste, rappelle-moi, est née en 2017. Et l'aventure a continué, les écoutes se sont multipliées. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes pas loin de 1,5 million d'écoutes cumulées pour l'ensemble des épisodes. Et tu as décidé de créer deux podcasts cousins de Passion médiéviste. Passion moderniste, tout d'abord, en 2019. Et depuis janvier 2021, Passion antiquité. Pourquoi ces nouvelles créations et pourquoi avoir choisi spécifiquement ces deux nouvelles périodes historiques ?
Parce que j'en avais marre de recevoir des messages de « Allez, fais les autres périodes !» En vrai, les modernistes sont des gros forceurs.
Le lobby moderniste.
Le lobby moderniste est vraiment très, très fort. Donc, parce qu'en fait, vraiment, alors déjà, il se trouve qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler parce que là, il est déjà 45. Ouais. Mais aussi, j'ai du soutien financier de la part d'auditeurs et auditrices en financement participatif, donc des gens qui me donnent de l'argent tous les mois ou juste comme ça. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai décidé de faire de Passion Médiviste une partie de mon activité. Et donc d'y consacrer de plus en plus de temps, et donc de me dire « Ok, je peux avoir le temps de faire d'autres podcasts. » Et aussi parce que l'époque moderne, c'est un peu flou en général pour le public, l'époque moderne, et je sais que c'est le moins écouté, mes trois podcasts, même si c'est le deuxième. Mais parce qu'effectivement, là, il y a des choses à dire, parce que c'est une période, là, pour le coup, très riche. L'époque moderne, on est sur 3-4 siècles, c'est vraiment très dense, enfin la naissance de l'État,
Louis XIV,
et en plus aussi l'exposition géographique, enfin j'ai fait au moins deux épisodes, un sur New York et un sur les chasseurs du Mississippi, donc là vraiment on peut prendre d'autres sujets. Et Passion Antiquité, alors là, Passion Antiquité, je prends plus l'angle voyage. En fait, vraiment, je m'amuse un peu plus à dire, allez, je vais faire voyager dans une époque. Parce que là, l'Antiquité, là, on a quasiment 3000 ans à traiter. Donc là, ouf, c'est très, très large. Donc là, je peux m'amuser vraiment à faire des sujets encore un peu plus différents. Mais là, j'en sors moins. Mais ça permet en fait aussi vraiment de voir d'autres techniques, d'autres façons de travailler pour les historiens, parce que c'est pas du tout la même façon qu'un médiéviste. De toute façon, même deux médiévistes, s'il y en a un sur Haut Moyen-Âge et un sur Bas Moyen-Âge, ils travailleront pas de la même façon. Oui, donc là, avec les antiquités au modernisme, ça permet vraiment encore plein de choses.
Comme tu le résumes si bien au début des épisodes de Passion Médiéviste, il y a autant de Moyen-Âge que de médiévistes en réalité. Donc tu peux dire ça en fait pour toutes les périodes sur lesquelles tu travailles. Chaque historien ou historienne a sa manière de voir la période qu'il étudie.
Oui, c'est ça aussi. Ça permet de, là pour le grand public, de percevoir que justement, il y a plein de façons d'étudier le Moyen-Âge et l'histoire en général, que vraiment on peut le prendre par plein de bouts différents et que s'il y a un de ces biais qui intéresse quelqu'un, bah c'est bon, ça, moi j'ai réussi à ma mission de faire intéresser plus les gens à l'histoire.
Et quelle a été ta réaction face au succès de tes podcasts en histoire ?
Pardon, mais ça me fait rire. Le succès, on m'arrête pas dans la rue. Hein. Mais...
Non.
Mais en vrai, je suis très contente parce qu'effectivement, bah, c'est beaucoup de travail. Maintenant, donc, c'est un mi-temps, mais au début, bah, c'était les week-ends, les soirées, mon copain qui en a marre, voilà. Mais je suis contente, effectivement, que ça ait du succès. Et je, en fait, ce qui est vraiment, je m'en suis rendu compte là, il y a quelques temps, c'est que je fais quelque chose qui me plaît. J'adore ce que je fais. Et en plus, c'est en partie mon travail. Je ne sais pas si tout le monde peut dire ça, en fait. J'aime les gens avec qui je travaille, j'aime ce que je fais. Je peux choisir tous les sujets sur lesquels je travaille. Ben, je pense qu'il y a... enfin, je me sens vraiment chanceuse
libre.
Et contente.
Libre.
Hein? Et oui, ben, libre, mais par les propres cadres que je me suis fixée. Et c'est ça, en fait. Ben, je pense que clairement, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, je ne l'aurais pas cru. Vraiment, j'aurais dit, mais non, ça ne va pas. Mais c'est vraiment aujourd'hui. Et enfin, c'est... ce qui est chouette, c'est que je me dis, je ne sais pas ce qui m'attend encore après. Mais parce que là, je suis sortie l'épisode justement anniversaire des 5 ans avec ma première invitée, et en rigolant, je dis bah, tu verras, quand on fera l'épisode spécial 10 ans, on s'est regardé en mode oh là là, c'est assez vertigineux, mais après, peut-être que j'arrêterai parce que je m'ennuierai, ou j'ai envie de faire autre chose. Vraiment, je me suis dit tant que ça me plaît, je continue.
Et enfin, dernière question. Avant de passer aux questions du public. Y a-t-il quelque chose qui te rend particulièrement fière ou au contraire que tu regrettes dans les différents podcasts que tu as pu faire ?
Fière parce que je suis contente de voir aussi comment j'arrive à mettre en avant certains invités. Quand je vois que Justine, ma première invitée, elle m'a dit à chaque fois que je vais à un colloque, on me parle de passion médiéviste. Donc je me dis ok, et même voilà, ça permet à certaines personnes de faire avancer. Fière d'avoir vraiment, même si l'argent c'est bien sûr, mais un des moteurs aussi de ce podcast qui est quand même assez incroyable, c'est les messages que je reçois des gens. Mais il y a des messages, mais laisse tomber. Enfin, là maintenant je crois que je suis à au moins une dizaine de personnes qui m'ont dit avoir choisi de faire des études d'histoire médiévale après avoir écouté le podcast. Mais t'imagines ça,
tu crées des
genre j'influence des vies. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Et je me dis, si ça peut permettre aux gens de découvrir une voie différente, c'est incroyable. Alors, sur les regrets, c'est une bonne question. Parce que pour le coup... Alors, je pense que peut-être à un moment, d'avoir voulu sortir trop d'épisodes à un moment. Mm-hmm. Parce que maintenant, j'alterne... Alors, je sors 2 épisodes de Passion Médiéviste par mois, un épisode classique et un autre format que je fais. Il y a un moment où je voulais aussi sortir un antiquité par mois et un moderniste par mois. Donc ça faisait 4 épisodes par mois, quasiment un par semaine. Et c'était un peu lourd. Et là, vraiment, en fin 2021, je me rendais compte que je pouvais, sachant que je suis freelance à côté, que je fais plein je travaille pour plein d'autres personnes aussi. Donc en fait, il y a un moment où je me dis, je ne peux pas. Donc là, depuis début 2022, j'alterne les sorties de moderniste et antiquité. Mais ça a été dur de me dire, j'avais l'impression de reculer, j'ai l'impression de régresser, mais en fait, je me dis, mais non, là, en fait, parce que, alors clairement, je paye des gens pour m'aider à faire les montages, pour gagner du temps, mais là, même moi, en fait, même si les montages, il y a des choses que je peux faire que moi-même.
Bien sûr.
Donc, c'était plus gérable. Donc, peut-être, même si j'ai pris beaucoup mon temps, et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais en général à toutes les personnes qui veulent créer un projet, essayez de pas, même si, lancez-vous, mais. N'hésitez pas à prendre votre temps. Moi, le financement, je l'ai lancé au bout d'un an et demi de création du podcast. Au début, les épisodes faisaient 15 minutes. Enfin, généralement, j'ai progressé. Et la forme à laquelle j'en suis maintenant, j'ai pris mon temps.
Ça me fait revenir à une autre question. La longueur moyenne de tes épisodes, c'est 40 à 45 minutes. As-tu déjà dépassé cette limite ?
Bah, ce qui est bien dans le podcast, c'est qu'il n'y a pas de problème de durée. Je fais ce que je veux. En fait, vraiment, maintenant, je ne veux pas faire plus, en général, pour les épisodes de 45 minutes, parce que, en termes d'attention aussi, je trouve que c'est bien, ça se tient bien. Et je me dis, si on mettait plus long, ça tirerait un peu plus. J'ai déjà fait plus long, bah, pour les Super Joutes Royales, on a fait un épisode de 2 heures. Mais comme là, c'est un épisode où on est 4, enfin, c'est très conversationnel, ça s'écoute plus facilement, et puis de toute façon, les gens peuvent mettre pause. Alors à chaque fois, on me dit, oh, pourquoi les épisodes sont trop longs, mais vous pouvez faire pause et réécouter plus tard, en fait, c'est pas très grave. Mais bah, je crois que l'épisode avec toi, il fait quasiment enfin, il fait 58 minutes. 58 minutes, voilà, donc je m'interdis rien, en fait. Je me dis, si j'ai envie de faire plus long, je fais plus long, et puis, mais pour le coup, je vais pas faire moins de 30 minutes, parce que ce serait vraiment trop déséquilibré par rapport aux autres épisodes.
Très bien, et eh bien merci beaucoup Fanny d'être venue à la BU Lettres et Sciences Humaines de Nancy pour nous parler de toi et de tes productions en podcast. Je propose que nous passions maintenant aux questions du public.
Qui sont nombreuses, incroyables.
Très nombreuses.
Ah.
C'est encore moins. si vous aviez pu faire un travail de recherche en histoire médiévale, vous auriez choisi quoi comme sujet?
Alors techniquement, j'ai fait mon M1. Alors moi, mon M1, c'était un micro-sujet que clairement, je le propose. Enfin, si on me proposait ce sujet dans le podcast, je dirais non. C'était sur un document de gestion de seigneurie à la fin du XIIIe siècle dans le nord de la France, autour de Tournai. Et en fait, j'avais kiffé vraiment ce sujet-là. Donc, j'étais en direction avec Laurent Feller, donc, qui est spécialisé plutôt histoire économique, histoire voilà, du salaire, du travail. Ben, j'ai adoré ce côté-là. En fait, ce côté, ben, on va aller voir en fait, à travers ces documents de gestion qui peuvent paraître parfois un peu obscurs, mais en fait, bah, y a un moment dans ce manuscrit, donc qui fait à peu près 30 pages, 30 folios, mais il y a une page de salaire des employés de la seigneurie. Et bah, là, on voit, alors, donc, comme c'est de l'ancien Picard, c'est très barbare. L'ancien Picard, c'est génial, il y a des K et des W partout. Mais donc, il y a une certaine Marie qui était bah, employée de chambre. Elle dit, ok, bah, là, on parle de 1273, ben, c'est la seule trace qu'il y a peut-être dans l'histoire de tout de cette Marie-là, et ben, on peut la voir par là. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Et c'est à partir de fin XIIIe siècle qu'on commence à avoir de plus en plus de documents comme ça qui ont été conservés, parce que peut-être qu'ils existaient avant, mais ils n'ont pas forcément été conservés. Et moi, c'est vraiment ce truc-là que j'aimerais faire, en fait. En fait, après, la recherche, ben là, mine de rien, je pense que j'ai plus fait de recherche avec 5 ans avec le podcast que si j'avais fait toute seule, parce que là, entre tous les sujets, entre tous les types de recherches, voilà, on parle des différentes branches d'histoire, ben j'ai un plus grand aperçu de tout ce qui est possible de faire comme recherche que si juste moi j'avais fait de la recherche toute seule. Oui ?
Qui vous écoute en particulier, vous savez, quel est votre public ?
Alors, il y a vraiment de toute personne. Alors, c'est avec le podcast, c'est pas par rapport. Alors, une des différences en termes, par exemple, par rapport à YouTube, où là, on peut savoir parce que Google et compagnie. Mais là où YouTube, il y a une plateforme de référence, le podcast, il n'y a pas une plateforme de référence qui existe actuellement. On peut écouter les podcasts sur Spotify, sur Deezer, sur beaucoup, beaucoup de sites. Donc là, niveau données comme ça, vraiment très quantitatif, c'est pas possible. Mais en tout cas, par les retours que j'ai, je sais que j'ai de tout, vraiment de tous âges, que ce soit des jeunes en licence, que ce soit des personnes de 60, plus de 60 ans, vraiment de tout type de personnes. Des passionnés. Alors, je pense qu'en général, c'est quand même des gens qui sont intéressés par l'histoire. Mais bon, voilà, c'est tellement vaste. Mais j'ai autant aussi voilà, des profs qui écoutent le podcast pour faire écouter à leurs élèves ou des profs qui écoutent pour préparer leurs cours. Parce que bah, des profs de lycée qui doivent donner cours à des cinquièmes, si la personne n'est pas médiéviste, parfois, bah, pour rattraper un peu des choses. Vraiment tout type de public. Ça, je le vois et c'est toujours très surprenant.
Par ailleurs, j'en profite pour les personnes qui sont justement enseignantes. Il y a une page sur le site Passion Médiéviste où Fanny a réalisé le classement par rapport au programme année par année et où on peut voir directement vis-à-vis du programme les épisodes correspondants.
Oui, si ça, pour faire des exercices en cours, que ce soit, alors je ne connais plus les termes, mais en gros les devoirs à la maison ou en classe ou juste pour enrichir, il y a pas mal de choses à faire avec ça. Enfin, je dis ça parce que c'est des profs qui l'ont fait et qui m'ont dit qu'ils faisaient. En fait, moi, c'est pas. Et je me suis dit, ok, bon, bah, on va essayer de proposer quelque chose d'un peu plus détaillé, mais enfin, il y a beaucoup de choses à faire avec le podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais d'ailleurs, bah, enfin, si l'histoire en général vous intéresse, je peux vous conseiller d'autres podcasts. Alors, qui sont pas. Voilà, j'essaie de réfléchir à des podcasts qui sont différents de ce que je fais, ou enfin, en tout cas. Alors, il y a un podcast marocain, mais qui est en français pour la plupart des épisodes, qui s'appelle Radio Maarif, avec M-A-A-R-I-F, où c'est en fait un journaliste, et il n'est pas que journaliste, il est aussi musicien marocain, qui, dans chaque épisode, interview, bon là pour le coup des historiens et tout ça, mais sur un point de l'histoire marocaine. Et en fait, j'adore son approche parce que vraiment, c'est. Enfin, par plein d'aspects différents, que ce soit vraiment l'archéologie, que ce soit le protectorat, que ce soit l'époque médiévale. Et c'est vraiment assez chouette d'écouter en fait, ces podcasts-là, où peut-être, en fait, bah, en tant que pays qui a été colonisé, forcément, l'histoire du Maroc, ça a été compliqué pour se la réapproprier. Donc, il y a tout un travail encore à faire de valorisation des recherches qui sont faites actuellement. Si l'histoire de l'art vous intéresse, c'est aussi la déconstruction de beaucoup de choses dans l'histoire de l'art, c'est aussi la déconstruction du regard plutôt masculin et blanc. Alors il y a un podcast, alors attention pour les oreilles un peu chastes, qui s'appelle « Vénus, s'épilait-elle la chatte ?» C'est le nom du podcast, c'est pas ma faute. Mais en fait, chaque épisode est centré voilà, sur un sujet en lien avec l'histoire de l'art, avec notamment un épisode sur Picasso pour montrer comment Picasso est peut-être quelqu'un qui en fait a fait souffrir des femmes pour pouvoir faire des œuvres d'art, ce qui est quand même un peu compliqué, et en battant des femmes, en les faisant pleurer pour les peindre. Bref, c'est juste... Enfin, on dit, oh, on peut pas reconsidérer toutes les personnes, mais en fait, là, quand... Enfin, c'est pas l'homme de l'artiste, oui, mais en fait, quand l'artiste, pour faire ses œuvres, a fait du mal, ben, on peut peut-être aussi reconsidérer ça. Donc, là, il y a un épisode aussi sur les héroïnes romantiques, en fait, comment les femmes étaient représentées aussi dans tout l'art romantique. Donc ça, c'est très chouette. Et si la culture générale dans l'histoire, et en fait vraiment, là pour le coup, c'est un des podcasts dont je me suis inspirée sur la forme, ça s'appelle Culture 2000, vraiment à conseiller à toutes les personnes, si vous connaissez des lycéens qui préparent le bac, alors bah, du coup là le bac c'est fini,
c'est dans quelques mois.
Ouais, bon le bac ça a changé de toute façon, mais en tout cas pour toutes les personnes qui veulent s'intéresser en général, en fait c'est à chaque épisode ils prennent un sujet d'histoire plutôt contemporaine. C'est plutôt quand même en général du 20e siècle, mais pas que. Et vraiment, en une heure, ils le traitent à plusieurs, en mode table ronde. Par exemple, je sais pas, là, ils ont fait un épisode, en plus, avec parfois des invités. Ils ont eu Boucheron comme invité, donc quand même plutôt... Enfin, au Collège de France, c'est quand même assez classe. Mais là, c'est voilà, l'histoire du charbon, parce que pourquoi pas. Donc, plein de sujets comme ça. Donc, Culture 2000, vraiment, ça aussi, c'est très chouette. Je peux conseiller ça.
Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette conférence en direct de la BU Lettres et Sciences Humaines de Nancy. Merci à toi, Fanny, d'être venue et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à toi, Peter. Merci, Philippe, et merci bah, tout à la BU pour l'invitation. Vraiment, là, je suis trop contente. Je viens à Nancy tous les week-ends maintenant. Merci beaucoup pour l'accueil.
Merci également aux personnes qui regarderont cette conférence en replay grâce à la captation vidéo de nous avoir visionnés et à bientôt pour de nouvelles animations culturelles à la BU Lettres et Sciences Humaines de Nancy.